Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia. Bonjour. Actualité oblige, après d'intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur ce matin dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de 10 jours d'affrontements, leur confrontation la plus meurtrière depuis des années. Des milliers de Palestiniens ont célébré l'événement dans les rues du centre de Gaza City et des manifestations de joie se sont aussi multipliés dans des villes de la Cisjordanie occupée, tandis que l'armée israélienne ne faisait mention d'aucune nouvelle alerte à la roquette. Le président américain Joe Biden a salué le cessez-le-feu et déclaré que les États-Unis aideraient Gaza en fournissant une aide humanitaire. Lors d'une brève allocution à la Maison-Blanche, M. Biden a également déclaré que les États-Unis allaient réapprovisionner le système de défense antimissile israélien, le Dôme de fer, qui a permis de repousser les roquettes tirées par le Hamas. M. Biden a estimé que le cessez-le-feu représentait une vraie opportunité d'avancer vers la paix, ajoutant « Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent, les uns comme les autres, de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra ses efforts diplomatiques discrets, mais déterminés, pour aller vers cet objectif, s'est-il engagé en exprimant sa sincère reconnaissance à l'Égypte pour son rôle dans les négociations. Au demeurant, le département d'État américain a annoncé que le secrétaire d'État Anthony Blinken se rendra au Moyen-Orient dans les prochains jours pour y rencontrer ses homologues israéliens, palestiniens et régionaux et travailler ensemble à la construction d'un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une reconstruction et un rétablissement rapide et durable qui soutiennent le peuple palestinien et renforcent leurs institutions. Les affrontements ont fait au moins 232 morts côté palestinien, dont 65 enfants et de nombreux combattants du Hamas et du djihad islamique, et 12 morts en Israël. L'actualité africaine maintenant, l'Union africaine a exigé hier que la junte qui a pris le pouvoir au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno achève en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles, et ce, sans extension de la transition. Au Mali, 16 civils ont été tués mercredi dans le nord du pays quand leur véhicule a sauté sur une mine, selon des sources hospitalières. Pendant ce temps, nouvelle période d'incertitude sur le plan politique, Rosine Munezero expliquera. Au Cameroun, le journaliste Emmanuel Matip, directeur du journal Climat Social, en détention depuis 10 mois pour propagation de fausses nouvelles, a entamé une grève de la faim et un autre confrère, Paul Chouta, comme lui, critique du régime, a été condamné à 23 mois de prison pour le même motif, ont annoncé un syndicat local et Reporters sans frontières. La zone frontalière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta a retrouvé son calme hier, après un déferlement sans précédent de Marocains candidats à l'exil. Mais les tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid restent fortes. En Algérie, selon l'AFP, la campagne pour les élections législatives du 12 juin a été lancée hier dans un climat de répression, le régime étant déterminé à imposer sa feuille de route électorale en dépit de son rejet par le mouvement pro-démocratie du Hirak et par l'opposition laïque. Les malades graves du COVID-19 meurent davantage en Afrique que sur les autres continents, sans doute à cause du manque d'équipement de soins critiques, suggère une étude publiée par la revue médicale de Lancet ce vendredi, malgré la difficulté à recueillir des données exhaustives. Sans surprise, l'étude montre également que les patients atteints d'autres problèmes de santé, sida, diabète, maladie rénale, avaient plus de risques de mourir que les autres. suite de nos informations, au Mali, le collectif ayant abouti au renversement du président Ibeka a appelé à manifester le 4 juin. C'est une nouvelle période d'incertitude alors que le pays cherche à se doter d'un nouveau gouvernement de transition. Rosine Mounezero fait le point.
Le mouvement du 5 juin lance cet appel alors que le Mali et son gouvernement. Le premier ministre Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement la semaine passée. Il a indiqué sur les réseaux sociaux mercredi soir avoir achevé ses consultations avec la classe politique et les forces vives. Moussa Seydi Diallo, un responsable de l'URD, le parti de feu Soumaïla Cissé, qui compose le M5, a indiqué que son parti n'y participerait pas. Nous avons été sollicités pour participer à un gouvernement. Nous ne nous associerons à aucune manœuvre allant contre l'apaisement social. Nous n'allons participer à aucune manifestation pour le moment, a-t-il dit. La principale organisation syndicale a lancé lundi une grève de 4 jours et brandit la menace d'un mouvement illimité.
La République centrafricaine a notifié au Conseil de sécurité de l'ONU son intention d'accueillir prochainement 600 nouveaux instructeurs russes. Des centaines de paramilitaires russes aident déjà depuis 5 mois Bangui à combattre une rébellion. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon des sources diplomatiques de l'ONU à New York, c'est depuis le 10 mai que la Centrafrique a transmis au Conseil de sécurité une notification annonçant la mise à disposition prochaine par la Russie de 600 instructeurs supplémentaires. Cette notification a été suivie par un gel du processus à la demande de la France, de l'Estonie, de l'Irlande, du Royaume-Uni et des États-Unis, 5 pays qui ont demandé des précisions sur ce nouveau déploiement selon les mêmes sources. Officiellement, Moscou ne reconnaît que la présence de 535 instructeurs sous contrat avec le ministère de la Défense et affirme qu'ils forment les soldats centrafricains ou assurent la protection rapprochée du président Touadéra, mais ne combattent pas sauf s'ils sont pris pour cible. Mais selon plusieurs sources diplomatiques et sécuritaires en Centrafrique, il y a actuellement entre 800 et 2000 de ces paramilitaires russes dans le pays. L'influence grandissante de Moscou en Centrafrique n'est pas vue d'un bon œil par certains pays occidentaux, notamment la France.
Aux États-Unis, les chômeurs sont bien payés pour rester chez eux. La situation a assez duré et menace désormais la reprise, selon des élus républicains qui ont décidé de supprimer ces allocations chômage versées pendant la pandémie qui a laissé près de 2,5 millions d'Américains sans ressources. Le point avec Marius Mohonga.
Dans sa lettre du 6 mai, Henry McMaster, gouverneur républicain des Carolines du Sud, a ordonné de mettre fin à toutes les aides dans son État où le salaire minimum est de 7,25 dollars l'heure. Selon lui, cette aide rémunère et incite les travailleurs à rester chez eux plutôt que de les encourager à retourner sur les lieux de travail. 21 de 27 gouverneurs d'État républicains ont déjà annoncé la suppression de 300 dollars supplémentaires, soit 150 000 francs CFA par semaine, que recevaient les chômeurs depuis plus de 6 mois. Face à des millions d'emplois perdus à cause de la pandémie, le gouvernement fédéral a étendu des droits au chômage à 300 dollars par semaine, en plus d'une autre aide de 230 et 820 dollars par semaine, selon les États. 2,5 millions des bénéficiaires sur près de 16 millions au total ne toucheront plus rien dès juin ou juillet, selon les économistes. Sue Berkowitz, directrice d'une organisation qui soutient les communautés à bas revenus, estime que cela va être dévastateur pour les familles qui n'ont pas la stabilité d'un revenu et particulièrement pour les familles africaines américaines ou hispaniques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué à reculer ce mois-ci. Mais ce qui a provoqué la colère des gouverneurs républicains a été la création d'emplois en avril. 226 000, bien loin du million attendu. Le président Joe Biden a assuré que les aides seraient maintenues pour les États qui les souhaitent, mais il a rappelé que ces allocations seront retirées aux chômeurs qui auront refusé une offre d'emploi.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le programme de rationnement d'électricité a été affecté par de nouveaux déficits complémentaires, indiqué hier Mathias Kouassi, directeur général adjoint de la compagnie ivoirienne d'électricité. Les créneaux horaires du rationnement n'ont pas toujours été respectés dans certaines zones. Depuis le 11 mai, un site web et un numéro vert gratuit ont été mis sur ce programme de rationnement. La ville de Dakar au Sénégal est candidate à l'organisation de la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale en 2023. Officialisant cette candidature hier jeudi, la maire Soham El Ouardini a affirmé espérer faire une édition axée sur l'écologie, l'économie verte, l'humanisme et l'innovation sociale. Au Cameroun, la Banque de développement des États d'Afrique centrale a dressé le bilan de 46 ans de coopération. 336 milliards de francs CFA ont été investis à travers des financements publics et privés, dont 57% dans l'industrie, 15% dans les transports et 8% dans l'agriculture. Les projets les plus importants ont été l'aménagement du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, la construction d'une usine de transformation de cacao à Kribi ou encore la route Keta-Djoum frontière Congo sur 504 km.
Merci Claire. Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Ce vendredi est jour de repos pour les clubs participants à la Basketball Africa League qui se joue à Kigali au Rwanda. Les deuxièmes sorties dans la phase de poule mercredi et jeudi ont été décisives. Dans le groupe A, les deux qualifiés pour les quarts sont connus. Il s'agit des Patriotes du Rwanda qui ont arraché leur ticket depuis mercredi et des Tunisiens de l'US Monastir qui comptent désormais 2 victoires en 2 matchs après avoir disposé hier des Nigériens de Rivers Hoopers 99-70. Dans ce groupe A, les Malgaches de GNBC et les Hoopers ne comptent plus que sur une éventuelle troisième meilleure place de l'ensemble des groupes pour retrouver les quarts. Ces deux derniers du groupe A s'affrontent dimanche pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Les deux qualifiés du groupe B sont aussi connus. Les Angolais de Petro de Luanda ont décroché leur billet en disposant hier des Camerounais de FAP sur le fil 66-64. L'équipe des forces armées et police enchaîne ainsi avec une deuxième défaite après sa sortie manquée de justesse devant les Marocains de l'AS Salé. Ces derniers ont aussi arraché leur ticket pour les quarts de finale en s'imposant face aux Maliens de l'AS Police, battus 88-79. Maliens et Camerounais seront face à face dimanche pour tenter d'accrocher l'une des deux places de meilleur troisième de l'ensemble des groupes qualificatifs pour les quarts. Dans le groupe C, le match de deuxième sortie entre le Zamalek et le groupement sportif des pétroliers d'Algérie a été reporté conformément au protocole de santé et de sécurité de la Ligue. Selon ce que l'on peut lire sur le site web de la Basketball Africa League, sans autre précision, la rencontre sera reprogrammée à une date ultérieure selon la balle. La rencontre entre les Sénégalais de l'AS Douane et les Mozambicains de Ferroviaire de Maputo a tourné à l'avantage des Mozambicains qui se sont relancés dans le tournoi. Le Zamalek, Ferroviaro et l'AS Douane comptent chacun une victoire dans ce groupe C. Il faudra donc attendre les matchs de demain, samedi, entre l'AS Douane et le Zamalek et JSP et Ferroviaro pour connaître les qualifiés de cette poule pour les quarts. Athlétisme, le triple sauteur américain Christian Taylor, 30 ans, double champion olympique en titre et quadruple champion du monde, s'est rompu un tendon d'Achille lors du meeting d'Ostrava en République tchèque. C'est ce qu'a annoncé sa compagne, de quoi le priver a priori des Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août prochain. Christian Taylor est un athlète au palmarès immense avec ses 2 titres olympiques en 2012 et 2016, 4 titres mondiaux. Il est détenteur de la 2e meilleure performance de l'histoire du triple saut, 18 mètres 21 en 2015. Un duel alléchant était donc attendu aux Jeux olympiques de Tokyo face au Burkinabé Fabrice Zango, vainqueur à Ostrava mercredi.
Merci Yakuba. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Sedunia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Du 20 au 21 mai se tient à Bamako le Forum de Bamako. Cette rencontre qui regroupe des personnalités venues du continent africain et d'ailleurs est un espace d'échange sur les problématiques de l'heure. Cette année, les participants vont se pencher sur le thème « Développement durable et capital humain ». Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Venus du continent et de plusieurs pays du monde, plusieurs personnalités prennent part à la 21e édition du Forum de Bamako. Ce forum va plancher sur comment faire en sorte que le capital humain puisse contribuer au développement durable des pays, notamment de l'Afrique. Ablassé Ouédraogo, ancien ministre burkinabé.
On se pose la question, pourquoi avons-nous besoin de développement? On a besoin de développement pour l'homme. Et qui doit faire le développement? C'est l'homme encore. Donc, si on accepte que tout est agencé autour de l'homme, j'ai dit homme avec un grand H, tous les efforts sur cette terre-là doivent concourir à donner une satisfaction à l'être humain.
Président du Forum de Bamako, pour Abdallah Koulibaly, le choix de parler du capital humain n'est pas fortuit dans un contexte de crise multiple que vivent les pays, notamment ceux du Sahel.
Au cœur de cette crise, c'est un problème d'hommes, d'attitude des hommes. Et donc, il faut s'attaquer à ça. Créer l'homme nouveau, l'homme qui va prendre sa destinée en main et qui va se développer. Mais cet homme-là, il souffre de quoi? Il souffre de problèmes de terre, spéculation foncière. Il souffre d'injustice, parce que l'injustice crée beaucoup de problèmes d'insécurité. Il souffre des problèmes d'eau, souffre des problèmes d'électricité. Donc, cet homme-là a besoin d'un minimum pour avoir la tête tranquille pour étudier.
Acteur majeur de la société malienne et ancien président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Diko, qui vient d'inaugurer un centre pour la paix et le vivre ensemble, pense que le capital humain africain manque de leadership.
Je pense réellement que le capital humain, c'est vrai, mais ce capital humain dans l'histoire de l'humanité a toujours eu des locomotives. Et l'être humain a besoin de cette locomotive pour l'attirer. Malheureusement, le capital humain africain aujourd'hui, la locomotive africaine est en panne par la faute des élites, l'élite africaine, au sens large du terme.
Chercheuse au centre Iris de Paris, Caroline Russi, pense que la mise en valeur du capital humain ne peut être effective qu'avec la gestion de la crise sécuritaire.
On constate, et tout le monde a été bien évidemment surpris par le décès inopiné d'Idriss Déby. À la suite de ce décès, aucune décision n'est intervenue de la part du sommet du G5 Sahel. Nous ne savons absolument pas quelle est la nouvelle tactique opérationnelle qui est prise ou non.
Pour cette 21e édition, le pays invité d'honneur est l'Estonie pour ses progrès dans le domaine de l'innovation. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'arnaque sur téléphone s'est répandue au Cameroun. C'est l'un des constats qui se dégage des 20 ans de téléphonie mobile célébrés cette semaine. Les pouvoirs publics, les experts, les compagnies de téléphonie mobile sensibilisent les abonnés et tentent de renforcer la sécurité des transactions par téléphone portable. Mais à ce jour, les comptes mobiles monnaie de plusieurs Camerounais ont été vidés par des cybercriminels. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Les transactions via le téléphone sont évaluées à plus de 3 500 milliards de francs CFA au Cameroun. Ce secteur d'activité est désormais ciblé par les arnaqueurs. Ariane Joanna Lomgoy est traductrice.
J'ai été contactée par un monsieur qui avait des renseignements sur mon nom. Il disait que c'était comme quoi une mauvaise manipulation, quelqu'un m'avait fait un virement, mais que ce montant ne m'était pas destiné et aurait voulu que je lui rende son argent. Sachant comment ça se passe actuellement avec beaucoup d'arnaqueurs, je n'ai pas tapé de code pour mon compte mobile.
Jean Kablan Bomba est cadre au ministère des forêts et de la faune.
Ma femme, par exemple, elle a été victime et on a retiré son argent. Bien que l'avancée technologique nous a permis, il y a 20 ans, d'avoir des téléphones mobiles, mais il faut essayer de recadrer les choses, de mettre un peu de sécurité.
Au cours de la rencontre d'experts sur les 20 ans de téléphonie mobile au Cameroun, l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, révèle que les services de sécurité ont diligenté l'an dernier 6 500 enquêtes contre les cybercriminels. Ibrahim Lindou est coordinateur de l'événement Camob 2020 qui organise le 20 ans de téléphonie mobile au Cameroun.
Aujourd'hui, le téléphone a donc apporté une nouvelle technologie. Mais alors, est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans cette nouvelle technologie et accepter donc les difficultés à y entrer? Et ça nous fait nous plonger dans les problèmes de la cybercriminalité, les problèmes de la sécurité, les problèmes d'identification.
Quatre jeunes Camerounais présents à l'événement ont développé une application d'alerte digitale qui propose une solution à l'arnaque au téléphone. Joël Ruffin Ngono, cofondateur de l'application Akuma.
C'est que si vous êtes victime de vol de votre téléphone, vous pouvez aller sur notre plateforme, vous signalez simplement le statut de votre téléphone, téléphone volé. Et une fois que votre téléphone a reçu ce statut, nous on aimerait transmettre maintenant à la police et à la gendarmerie cette base de données des téléphones qui sont signalés volés. Pourquoi ? Parce que ce sont les téléphones qui sont utilisés pour la cybercriminalité et pour arnaquer les gens. Et on espère que le gouvernement va nous accompagner.
L'État, à travers l'opérateur public de téléphonie du Cameroun, Camtel, a annoncé qu'il s'est doté d'un nouveau centre de données de téléphonie d'une capacité de 2000 tera, lequel offre plus de services de cybersécurité. Nous avons parlé à Jean-Blaise Ndongo. Il est le directeur de la stratégie commerciale à Camtel.
Le data center, c'est une solution à tout. Ils doivent identifier ce trafic-là. Et ceux qui doivent identifier ce trafic-là sont connus. Et mais Camtel a l'infrastructure pour leur permettre l'identification de tous ces services. En venant travailler avec nous, ils ont l'assurance qu'ils pourront faire toutes les identifications possibles pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité.
La cybercriminalité est passible d'un emprisonnement de 5 à 10 ans au Cameroun, d'après la loi de 2010. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, Claire Moragie pour avec vous. Les arnaques au téléphone sont de plus en plus répandues. En avez-vous été victime? Que faut-il faire pour lutter contre elles? Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis à 18h sur l'antenne de VOA Afrique. En appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Le cyclisme burkinabé se porte bien malgré la modestie de ses moyens. Les coureurs burkinabés ont régulièrement de la compétition et dominent les tours cyclistes dans la sous-région et s'affirme positivement sur l'échiquier africain, ce qui fait du vélo la discipline la plus populaire au Faso. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Le cyclisme est l'une des disciplines sportives qui fait la fierté du Burkina. Aussi bien au plan national que continental, les coureurs du Faso animent les courses à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international, en témoignent les nombreux trophées remportés dans la sous-région et même au-delà. Sur les tours du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, les étalons cyclistes règnent partout. C'est ce qui fait du premier responsable de cette discipline, Ignace Amédé Beroudou, que le vélo a du vent à poupe au Faso.
Le cyclisme burkinabé va très bien. C'est bien vrai que c'est depuis 16 ans, c'est un peu timide. Et vu déjà les résultats qu'on fait, vraiment, c'est pas mal.
Étant donné que le pays est par essence un pays de vélo, il va sans dire que le cyclisme est la discipline sportive la plus populaire.
C'est un sport plus que populaire, c'est pratiquement en termes de pratique, le premier sport plus que nous tous on est cycliste.
André Dominique Nana, ministre des Sports et des Loisirs.
C'est une des fédérations qui fonctionne très bien au plan africain, qui participe aux compétitions, qui nous permettent parfois d'avoir des lauriers. Tout dernièrement, en Égypte, on a eu une médaille d'or dans la course contre la montre avec Paul Domon. Donc, c'est en tout cas une discipline qui nous apporte beaucoup de satisfaction.
Cependant, ces résultats cachent tout de même l'envers du décor. Malgré la tenue régulière du Tour du Faso, l'un des tours cyclistes les plus renommés sur le continent depuis plus de 30 ans, il n'y a pas d'école de formation de la petite reine au Burkina. Laurent Bezo est le représentant pour la zone Afrique de l'Ouest de l'Union Cycliste Internationale.
Il n'y a pas de centre de formation, mais il y a des clubs qui fonctionnent. Et ça c'est important parce que c'est la base. Si vous n'avez pas de club qui fonctionne, le reste ne peut pas fonctionner, puisque les clubs, ce sont eux qui vont détecter, former les jeunes coureurs à la pratique du cyclisme et en faire des champions. ceux qui après vont se retrouver en équipe nationale et aller les disputer des épreuves au niveau international. C'est vrai qu'il n'y a pas de centre de formation en tant que tel, mais il suffirait qu'il y ait une vraie volonté politique pour le faire.
En entendant donc cet engagement politique, les cyclistes burkinabés vivent dans une certaine réalité, souvent difficile. Paul Domon est l'un des meilleurs coureurs burkinabés du moment.
Mais la difficulté peut être matérielle, c'est-à-dire toujours avoir le meilleur matériel pour pouvoir rivaliser au haut niveau, et aussi le niveau de vie des athlètes, à travers peut-être des primes ou des salaires qui seraient un peu plus conséquents pour que les gens puissent correctement s'alimenter, se soigner, manger du vélo.
Qu'à cela ne tienne, l'avenir du cyclisme au Burkina s'annonce prometteur. Paul Domon est l'une des valeurs sûres.
Je pense qu'il y a de l'avenir parce qu'il y a une génération derrière. C'était la question que l'on pouvait se poser l'année passée à cause de la pandémie mondiale. Et l'on voit bien que malgré les difficultés, qu'elles soient financières ou physiques, les coureurs et l'ensemble des dirigeants ont quand même cette volonté de bien faire.
Les moyens sont certes minimes, mais la motivation est sans faille. C'est d'ailleurs ce qui permettra au Burkina de garder son leadership dans la sous-région. Kader Traoré, à Ouagadougou, pour VOA Afrique.
Avec une demande en vaccin anti-Covid largement satisfaite aux États-Unis, l'administration Biden tourne son attention au reste du monde. En quoi la réponse américaine à la pandémie serait-elle différente de ce qu'on appelle la diplomatie vaccinale de la Chine et de la Russie? Explication de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Vedakushwara. Récit d'Abdulrahman Dia.
125 millions d'Américains, soit 38% de la population, sont entièrement vaccinés. 138 millions, soit 48%, ont eu au moins leur première dose. Les enfants âgés de 12 à 15 ans ont commencé à recevoir leur dose. Maintenant, Washington a les yeux rivés sur le reste du monde.
Nous n'utiliserons pas nos vaccins en échange de faveurs d'autres pays.
Le président Joe Biden vient d'annoncer 20 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca, soit un total de 80 millions de doses pour le système COVAX, le mécanisme des Nations Unies permettant aux pays à revenus faibles et intermédiaires d'accéder au vaccin. C'est la première étape de la stratégie globale que son administration doit encore définir. Mais Washington dit déjà que ses efforts seront différents de la diplomatie vaccinale de la Chine et de la Russie. Ces deux pays ont fourni des dizaines de millions de doses dans de nombreux pays, mais sous certaines conditions. Jeremy Koenigdijk est le directeur exécutif du programme COVID-19 à l'USAID.
La Chine et la Russie essayent en fait d'utiliser leur vente de vaccins en petite quantité pour obtenir des concessions politiques et gagner une influence politique. Ce que nous voulons faire, c'est utiliser une réponse de masse pour mettre fin à la pandémie, et c'est cette image-là que nous voulons imprimer.
Le président Joe Biden devrait annoncer une stratégie mondiale lors du sommet du G7 en juin. Ce groupe veut mener la relance économique globale post-Covid. Mais ce sont ces mêmes pays qui sont également critiqués pour s'être accaparés de la part du lion dans les vaccins. Jamie Otenoff est responsable à l'ONG One Campaign.
Les pays riches pourraient vacciner 100% de leur population, y compris les enfants, et il leur restera encore 1,3 milliard de doses à partager. Et si nous regardons des chiffres plus réalistes, comme par exemple 70% de leur population, il y aurait près de 2 milliards de doses à partager. Donc, ce que nous demandons à ces pays riches de faire, c'est d'examiner leur stock et de commencer à faire des plans pour partager les doses immédiatement afin que nous puissions élargir l'accès aux vaccins dans le monde entier.
Les États-Unis, avec des décennies de succès face aux précédentes crises sanitaires mondiales, ont un avantage sur la Chine et la Russie. Richard Reitinger est vice-président au groupe de recherche RTI International.
Qu'il s'agisse de l'Ebola en Afrique de l'Ouest ou de sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose ou le paludisme, je suis convaincu que les États-Unis vont intensifier et jouer un rôle de leadership dans la réponse anti-Covid au niveau mondial.
Un responsable de l'administration Biden estime que les efforts pourraient être aussi ambitieux que le plan Marshall qui avait aidé l'Europe à se relever après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont promis 4 milliards de dollars au dispositif COVAX et soutiennent aussi une levée des brevets sur les vaccins.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.